France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'invention de l'égalité en France et aux États-Unis. La révolution commence à Grenoble. C'est en 1788, le 7 juin. Le peuple, ce jour-là, c'est un jour de marché, prend le parti des magistrats du Parlement que la troupe, sur ordre de Versailles, voulait envoyer en exil. Les gagne-deniers du marché s'agitent dans tous les sens. Les femmes sonnent les cloches à la volée. Les hommes montent sur les toits, arrachent les tuiles qu'ils jettent sur les soldats. C'est la journée des tuiles. Qui aurait pensé qu'en très peu d'années, les privilèges seraient supprimés et que, scandale inouï, l'égalité s'imposerait jusque dans les codes de civilité et l'accès au droit de vote. Parti de Grenoble, la Révolution française allait rejoindre la Révolution américaine.
Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par leur créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. La Révolution américaine, par la Déclaration d'indépendance, proclame la valeur de la personne humaine. . 26 août 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La Révolution française donne au monde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir ces droits, droits.
Oui, évidemment, le disque depuis cette haute époque s'est un peu rayé et il est incontestable que nous sommes, ce n'est pas la première fois, en panne d'égalité. Mais heureusement, Grenoble est là où se tiennent les rencontres Refaire Société, dont l'animateur est Pierre Rosanvallon. Bonjour citoyen Rosanvallon.
Bonjour citoyen Lebrun.
Oui, on va dire tout à l'heure à quelle époque se sont établis ces nouveaux codes de civilité. Enfin, je rappelle quand même que vous êtes professeur au Collège de France. S'il y a bien un endroit à ne pas abolir dans ces temps d'envolée des inégalités, c'est le Collège de France.
Oui, d'ailleurs, c'est la seule institution de l'Ancien Régime qui est continuée. Parce que c'est la seule institution qui n'était pas liée à des formes de privilèges.
Et où les professeurs sont élus par leurs pairs. Vous êtes animateur de la République des idées qui organise ses rencontres à Grenoble. S'il y a bien quelque chose à préserver en ces temps de concurrence généralisée, sont les rencontres de ce type. Vous aimez citer l'abbé Sieyès, qui expliquait qu'il faut partout une place publique, une fontaine publique, un réverbère où on puisse se parler, respirer l'égalité les uns avec les autres.
Oui, parce que l'égalité, c'est d'abord partager un monde commun. L'égalité, c'est être côte à côte. L'égalité, c'est partager une marche ensemble. L'égalité, c'est défiler. L'égalité, c'est s'assembler. D'ailleurs, il y a une chose qu'on oublie souvent. Quand on parle de la Révolution française, le 14 juillet, ce n'est pas l'anniversaire de la prise de la Bastille, c'est l'anniversaire de la fête de la Fédération. Parce que la fête de la Fédération, c'est justement le côte-à-côte et le rassemblement dans un même espace des personnes de lieux différents, originaires d'un peu partout.
Et bien, on va prendre des moments fondateurs, comme vous nous le recommandez. On va commencer par la nuit du 4 août 1789, donc la campagne en France s'est soulevée, les châteaux partout brûlent, c'est la grande peur qui est très cruelle pour les privilégiés, qui se répand, et à Paris, la nuit du 4 août, à l'Assemblée.
Ça aujourd'hui ?
Cette nuit, oui.
Vous êtes certain que le duc d'Aiguillon votera l'abolition ?
Certain. Il n'a pas l'habitude de se déjuger.
Voici le président.
La parole est à monsieur le vicomte de Noailles.
Que faisons-nous pour calmer l'effervescence du royaume ? Pour rendre la sécurité aux personnes et aux propriétés ? Bien que l'Assemblée nationale s'appelle maintenant Assemblée constituante, ce n'est pas une constitution que nous ont demandé les communes, mais la suppression ou la transformation des droits seigneuriaux. Pour éteindre l'incendie qui se propage de ville en village, je ne vois que l'égalité devant l'impôt. La suppression des corvées et des servitudes. Et l'abolition des droits féodaux moyennant rachat.
Il convient de l'affirmer, de le clamer à la face du monde. Le régime féodal doit être aboli.
Il ne s'agit pas seulement ce jour-là, citoyen Rosanvallon, d'impôts, de taxes injustes, mais de rendre au sort commun des privilégiés, le vicomte de Noailles et le duc d'Aiguillon l'ont accepté, qui formaient une sorte de race à part.
Oui, car à l'époque de la Révolution française, les nobles, les sangbleus, pensaient qu'ils faisaient presque partie d'une humanité différente. Bien sûr, ils avaient des privilèges qui ont été la cause de la Révolution, mais ces privilèges, ils les considéraient comme la contrepartie normale, je dirais, de services rendus de temps immémoriaux et comme la contrepartie de leur distinction et de leur supériorité naturelle. Donc pour eux, leur privilège n'était que justice. Eh bien, c'est cela qui sera refusé pendant la Révolution.
Est-ce que, puisque vous faites de l'histoire intellectuelle du politique, que vous cherchez à entrer dans les têtes des gens et à connaître le sens exact des mots tels qu'ils arrivaient au bout de leur plume à l'époque, pas dans le sens d'aujourd'hui, on peut essayer de retrouver les sources de l'égalité. Alors c'est quoi ? C'est la Bible, c'est Rousseau, c'est l'encyclopédie, c'est l'histoire naturelle de Buffon ?
Il y a beaucoup d'origines. Il est certain que l'idée chrétienne a compté aux États-Unis plus qu'en France d'ailleurs. C'est que l'idée, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus que des hommes devant Dieu. Donc, mais cette vision chrétienne, si elle a été très puissante aux États-Unis, elle ne conduisait pas forcément à l'égalité, parce que la vision chrétienne, c'était une idée d'égalité en dignité. C'était une égalité dans l'au-delà. C'était une égalité de mérite et de vertu.
Tout de même, pas... citoyen Rosanvallon, quand Adam bêchait et qu'Ève filait, où était le gentilhomme ? C'est une question qu'on pose à partir de la Bible, ça.
Bien sûr, mais cette question à partir de la Bible, c'est une interprétation radicale de la Bible chez ceux qu'on pourrait appeler les premiers révolutionnaires anglais. Mais en France, là, il y avait une dichotomie, pouvait-on dire, entre l'idée d'une égalité morale, d'une égalité spirituelle et puis d'une égalité sociale.
Alors, les gens de la Révolution lisent aussi l'encyclopédie, l'article « Égalité de l'encyclopédie ».
Alors, l'encyclopédie a évidemment joué un rôle. Et en quel sens ? C'est qu'on a fait la différence entre l'idée de similitude et l'idée d'égalité. Et c'est Buffon qui a aidé à penser la notion de monde de semblables, que nous appartenons tous à la même espèce humaine.
Alors, ce qui distingue l'homme est moins important que ce qui le rassemble dans une même espèce.
Exactement. Ce que disait Buffon, c'est que les distinctions entre les individus étaient finalement secondaires et accessoires, et qu'au fond, elles pourraient toutes s'inverser. Il disait, bien sûr, il y a des distinctions de couleur de peau. Bien sûr, il y a des distinctions immédiates. Mais toutes ces distinctions, elles sont réversibles et elles peuvent changer. Ce qui est fondamental, c'est qu'au fond, nous appartenons tous à la même espèce.
Et on lisait Rousseau aussi chez les révolutionnaires.
On a lu Rousseau, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au temps de la Révolution française, on lisait probablement beaucoup plus le Rousseau des rêveries, on lisait beaucoup plus le Rousseau des confessions d'un promeneur solitaire que le Rousseau du contrat social. Et c'était le Rousseau de la sensibilité qui était principalement lu au temps de la Révolution française.
Rousseau, c'était l'exemple de celui qui invente sa vie sans nécessairement le secours d'autrui.
Ah ben Rousseau, c'est l'histoire de celui qui se définit comme un individu singulier et qui ne veut pas être le fils de quelqu'un. Rousseau, c'est celui qui met l'idée de singularité au cœur de la modernité de l'individu. Mais son grand problème, c'était comment faire société quand on est singulier. Et donc, il exaltait la singularité d'un côté, mais de l'autre côté, il exaltait une vision commune extrêmement rigoureuse du contrat social.
Alors ainsi, avec toutes ces sources mêlées, emmêlées, Rousseau, la Bible, l'encyclopédie, l'histoire naturelle de Buffon, se forge le vocabulaire de la Déclaration des droits de l'homme. Dans l'extrait qu'on va entendre, discussion à l'Assemblée toujours, on entend d'abord Mounier, honneur aux députés de Grenoble.
La parole est à Monsieur Mounier. On a beaucoup parlé de la Constitution, mais il me semble qu'avant d'entreprendre sa rédaction définitive, il convient d'inscrire en tête, de graver, pour ainsi dire, dans le marbre, les droits inaliénables de l'humanité. Nos amis américains l'ont fait. Serons-nous en retard sur eux après leur avoir donné exemple ?
La Déclaration des droits de l'homme doit être simple, claire et précise pour qu'elle devienne le catéchisme national. À ce titre, elle doit précéder la Constitution et lui donner le ton.
Mes amis, voici la formule que je propose pour le premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Résumons, citoyen Rosanvallon, vous publiez La société des égaux au seuil et vous dites l'égalité, c'est appartenir à une même humanité.
C'est bien sûr, c'est l'égalité définie comme une égalité de position, être des semblables.
Et c'est aussi vivre libre, alors à la manière de Rousseau, dans une société d'individus.
C'est-à-dire être des individus indépendants et qui, dans leur relation, que leur relation ne soit pas marquée par des situations de domination.
Et enfin, c'est appartenir à une même communauté politique.
Voilà, on peut donc dire que l'égalité, c'est à la fois éradiquer la distinction, éradiquer la domination et organiser la participation.
Oui, mais dites-moi, même à l'époque de la Révolution, on parlera tout à l'heure de l'envolée des inégalités après la Révolution, même à l'époque de la Révolution, il y avait des exclus de l'égalité. Article encyclopédie, égalité. Quelques pages plus loin, l'article, esclavage. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'était un esclave dans le vocabulaire des révolutionnaires ?
Alors, juste avant de répondre à votre question, juste un mot. Vous avez cité Mounier tout à l'heure. Ce qui est fondamental,
député de Grenoble,
c'est que Mounier, député de Grenoble, était quelqu'un très modéré, puisqu'il a même quitté la Révolution un an après son début. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que la Révolution est un mouvement véritablement unanime du point de vue de ses idées fondatrices, et qu'il y a eu une sorte de radicalisme des modérés eux-mêmes y compris.
Oui, bon. Mais les gens qui sont ici, à la MC2 qui nous accueille pour les rencontres Refaire Société, sont eux-mêmes des gens modérés qui peuvent verser dans la radicalité, mais ne détournez
alors,
pas la question.
Alors, allons vers l'esclavage.
Esclavage. Alors, qu'est-ce esclavage. Que c'est un esclavage ?
Eh bien, être esclave, dans la langue du XVIIIe siècle, c'est être dans une situation de dépendance insupportable vis-à-vis d'autrui. Et donc, dans la langue française, par exemple, un des livres les plus célèbres de l'opposition à Louis XIV s'appelait « Les soupirs de la France esclave qui aspire à la liberté ». Et c'était pareil dans la société américaine. Les Américains se considéraient comme esclaves des Anglais. Et, chose surprenante, quand vous regardez l'article « Esclavage » de l'encyclopédie, vous avez peut-être 30 pages sur justement cette idée d'esclavage politique, de dépendance insupportable vis-à-vis du monarque absolu. Et juste à la fin, il y a quelques lignes seulement concernant l'esclavage dans les plantations, l'esclavage des nègres.
C'est-à-dire que les Américains insurgés étaient tellement préoccupés de se plaindre de leur situation d'esclave vis-à-vis du colonisateur britannique, qui ne regardait pas les nègres.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans la Révolution américaine, il y a une sensibilité à fleur de peau pour dénoncer l'esclavagisme comme dépendance vis-à-vis des Anglais, et presque personne ne hausse la voix pour dénoncer la situation des hommes de couleur dans les plantations. Alors, comment l'interpréter cela ? Ben, l'interpréter en montrant que quand on pense l'égalité, il faut la penser de façon anthropologique. On appartient au même monde. Et pour ces Américains, hélas, pour eux, l'homme de couleur n'était pas de la même espèce. Il n'avait pas lu Buffon. Voilà.
Prêtez attention aux mots.
Le saviez-vous, républicain, quel sort était le sort du nègre ? Qu'à son rang parmi les humains, un sage décret intègre. Il était esclave en naissant, puni de mort pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était un de son sang. Daignez m'épargner tout le reste. Daignez m'épargner tout le reste. Américain, l'égalité, vous proclame aujourd'hui nos frères. Vous aviez à la liberté les mêmes droits héréditaires. Vous êtes noir, mais le bon sens repousse un préjugé funeste. Seriez-vous moins intéressant aux yeux des républicains blancs? La couleur tombe et l'homme reste. La couleur tombe et l'homme reste.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Pierre Rosanvallon, l'auteur de La Société des Égaux, nous parlons de l'invention de l'égalité à l'époque de la Révolution française et de la Révolution américaine. Égalité dont les nègres, entre guillemets, dans la Révolution française, vont être bénéficiaires un court moment d'abolition de l'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas d'abord l'esclavage des nègres. Il faut dire, à la décharge des Américains, si on parle des insurgents, des gens qui ont lutté pour l'indépendance de l'Amérique, c'est que beaucoup d'entre eux se sentaient esclaves parce qu'ils étaient arrivés, eux ou leurs parents, en situation de travailleurs liés, dépendants.
Oui. Tout à fait, c'est quelque chose d'essentiel dans l'expérience américaine. On estime que des dernières décennies du XVIIe siècle aux années 1740-1750, plus de la moitié des migrants aux États-Unis sont venus dans le cadre de contrats de travail liés. De quoi s'agit-il ? C'est que beaucoup de personnes misérables dans les pays européens cherchaient une situation meilleure. Eh bien, parfois, on leur pillait un billet de bateau pour aller en Amérique, mais avec une contrepartie, c'est qu'ils devaient payer ce billet de bateau par un contrat de travail pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, ils étaient liés à quelqu'un qui avait simplement pour devoir de leur donner de la nourriture et de les habiller. Donc, ils étaient en quelque sorte, on pourrait dire, des sortes d'esclaves à temps limité. Et ça, c'était et quelqu'un qui avait ce contrat-là pouvait être revendu à une autre personne. Donc c'était une espèce d'expérience physique, justement, du travail lié et de l'esclavage. Et dans la Révolution américaine, l'idée de rompre avec la dépendance était pour cela absolument fondamentale. Et le travailleur indépendant, à partir de ce moment-là, a été l'idéal américain absolu.
Donc, dans l'imaginaire américain qu'on a du mal à comprendre, nous autres Français du XXIe siècle, c'est déjà l'égalité que de ne pas être soumis à un commerce inégal et d'être dans une société libre d'artisans, de paysans, de commerçants, qui se ressemblent d'ailleurs un peu tous, qui sont à même égalité de frugalité, de sobriété au début de la Révolution
Exactement.
Américaine.
Exactement. Mais quand on réfléchit à l'Amérique, il ne faut jamais oublier deux choses. Au temps de la Révolution américaine, il n'y avait que 2,5 millions d'habitants en Amérique, c'est-à-dire 10 fois moins qu'en France. C'était un pays très peu peuplé et déjà sur une étendue assez grande. Et à ce moment-là, presque tout le monde était devenu travailleur indépendant. 90% des Américains étaient des petits agriculteurs, des petits commerçants, des petits artisans, et que ça construit leur imaginaire. Alors qu'à la même époque, en France, il y a beaucoup de personnes qui sont salariées, beaucoup de personnes qui sont domestiques, beaucoup de personnes dont le travail est encadré, je dirais, par une autre personne.
Les Américains de la première révolution, ils ne songent même pas à la redistribution, parce qu'il n'y a pas suffisamment de différenciation de fortune dans cette république de gens modestes.
Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Amérique de cette époque, l'éthos égalitaire de personnes indépendantes qui ont les mêmes droits est tellement fort que des petites différences économiques, personne n'y fait attention et ne les regarde. Et ce, d'autant plus qu'à ce moment-là, il y a très peu de reproduction sociale. Si quelqu'un a réussi un moment, sa fortune peut s'effondrer. Ou bien son fils n'en héritera probablement pas. Donc, quand il y a des différences de richesse, elles apparaissent comme, à la fois d'un certain point de vue, temporaires. Et elles apparaissent très fortement, secondarisées et corrigées par la civilité égalitaire.
Alors cet imaginaire, on le retrouve constamment aux États-Unis. On parle beaucoup aujourd'hui du mouvement Tea Party. Ça, c'est une chanson typique des années Eisenhower, de la guerre froide. C'est une production des studios de Walt Disney. Nous sommes des fils de la liberté. Nous sommes tous au pied de l'arbre de la liberté. On a tous le même estomac et personne ne veut manger davantage que l'autre.
Yes, we are the sons of liberty. Save it from the storm, boys, water down its roots with tea. And the sun will always shine on the old liberty tree. It's a tall old tree and a strong old tree.
Alors l'égalité, citoyen Rosanvallon, c'est une société d'hommes libres, autonomes, mais c'est aussi une communauté politique de citoyens qui participent ensemble aux décisions. Alors là, il y a un fait inouï, c'est le suffrage universel. C'est quand même inconcevable à l'époque de la journée des Tuiles à Grenoble en 88, et puis c'est effectif moins de 2 ans. Ensuite, vous, professeur au Collège de France, vous ne pesez pas davantage que moi ou que monsieur, là, au premier rang, dans l'assemblée de la MC2 de Grenoble. Inouï.
Monsieur est peut-être professeur au lycée de Grenoble aussi.
Bah oui,
mais à ce détail près, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le suffrage universel ne veut pas dire que tous les individus ont la même éducation, la même capacité. Cela veut dire que pour parler de ce qui est le bien social, pour définir l'intérêt général, il n'y a pas de différence entre l'illettré et le savant. Tout le monde est à égalité pour parler de ce qui fait le contrat social et de ce qui est essentiel. Voilà, c'est ça. Alors beaucoup après essaieront de revenir en cause sur le suffrage universel en disant mais justement, tout le monde n'a pas la même capacité de discussion. Mais le suffrage universel, c'est pas pour dire chacun la même capacité de discussion. C'est pour dire que du fait même que l'on soit membre de la société, on a autant à dire sur ce qui est le bien de la société, on a autant à dire ce qui est sur le juste et sur l'injuste. Voilà le sens profond du suffrage universel. Ça, c'est le suffrage universel du point de vue de, je dirais, de ce qui le fonde dans sa fonction.
Mais du point de vue matériel de son organisation, nulle représentation à la télévision ou au cinéma des procédures électorales. Isoloir, une urne, comment ça se passe?
Ben non, parce qu'à l'époque du suffrage, à l'époque de la Révolution française ou de la Révolution américaine, il n'y a évidemment pas d'urne. Il n'y a pas non plus d'isoloir. L'isoloir date de la fin du 19e siècle. Et quelle est la question? C'est que pendant la Révolution française, d'abord, c'est un suffrage. Le suffrage universel, il a commencé à être imaginé, mais il ne vient que peu à peu dans les faits. Être citoyen, c'était participer à une assemblée primaire. Et d'ailleurs, le titre même de citoyen s'appelait « membre d'une assemblée primaire ». Cela veut dire que c'était des groupes d'à peu près 1000 personnes et ont participé à une assemblée pour désigner des délégués de deuxième degré qui, eux, allaient élire des députés. Mais ce qui est important de garder, c'est l'image que la citoyenneté, elle est liée à participer à une assemblée commune. La citoyenneté, c'est pas simplement le fait de déposer isolément son bulletin dans l'urne, c'est de participer à une assemblée.
Oui, mais alors l'assemblée, l'électricité sociale y circule, mais ça peut disjoncter très vite. Les assemblées ne sont pas toujours aussi calmes que celles devant lesquelles nous parlons.
Alors pendant la Révolution française, il faut savoir que les assemblées duraient très longtemps. Les électeurs de second degré, c'est-à-dire ceux qui nommaient effectivement les députés, mais aussi les officiers municipaux, dans certains cas même les prêtres et les évêques. À Paris, en 1790 et 1791, ils ont été jusqu'à se réunir 150 jours par an.
Et alors peu à peu, les extrêmes peuvent prendre le pouvoir, parce qu'il n'y a que les extrémistes qui peuvent se coucher à minuit, ou bien les tricoteuses.
Citoyenne, je me nomme Louise Vauclair. Je suis marchande de poissons au quartier de la douane et je paie l'impôt. Je viens vous demander si nous allons continuer à envoyer nos hommes se faire tuer dans une guerre où leurs plus grands ennemis ne sont pas devant eux, mais bien derrière.
Ça, c'est bien dit.
Je parle même pas des traîtres aristocrates qui appellent la défaite de leur pays, puisque cette défaite les rétablirait dans leurs privilèges. Je parle du roi. Je parle de la reine. Je parle de l'Assemblée. Sa Majesté, Monsieur Vette, trahi parce que c'est une grosse chiffre. Madame Vette trahi parce qu'elle est autrichienne. Parce qu'elle déteste la France. Elle trahi parce qu'elle croit que les armées de son neveu, l'empereur d'Autriche, rétabliront son autorité absolue. Elle oublie qu'un peuple, ça ne se mène pas comme un mari. Et que nous, les femmes, nous sommes là. Quant à l'Assemblée, elle trahit parce qu'elle a peur. Ces messieurs veulent bien d'une révolution, mais à leur profit. Si elle passe au profit du peuple, ils tirent la bride et crient à l'anarchie.
Citoyens, un mot seulement. Est-ce bien le rôle d'une femme de venir à cette tribune dire de pareilles choses?
Oui.
Aidez-moi. Je prétends que la place d'une femme est à son foyer.
Et toi, ta place est aux galères.
Bah, c'est bien vrai, ça. La Marseillaise, selon Jean Renoir, madame citoyenne, qui est à côté de monsieur au premier rang, ici, à Grenoble, n'avait pas la parole. Pendant la Révolution française, elle était rejetée dans le privé.
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les révolutions françaises et américaines mettent en place une vision très moderne de l'égalité, mais en même temps, il y a des blancs extraordinaires dans cette vision, et notamment le fait que les femmes ne sont pas incluses dans l'égalité. Et les voix ont été peu nombreuses en France. On sait celle de Condorcet, bien sûr, de quelques pionnières du mouvement féministe comme Olympe de Gouges. Et pourquoi ? Eh bien, parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'on pensait, on n'avait pas l'idée d'une société d'individus. On pensait qu'au fond, l'unité politique, si je puis dire, c'était la famille. Et voter le chef de cette unité politique, l'homme à l'époque, et la femme n'était qu'un élément secondarisé de cette unité politique. Et dans le cas français, pour que le suffrage universel des femmes s'impose, il faudra que la femme soit comprise comme un individu comme les autres. Et donc elle soit sortie de ce moule de la famille dans lequel elle n'était qu'une composante, dont elle n'était jamais le chef, mais toujours simplement la subordonnée.
Les blancs de l'égalité à l'époque de la Révolution, citoyen Rosanvallon. D'ailleurs, depuis quand vous appelais-je citoyen Rosanvallon ?
Eh bien, nous nous sommes appelés citoyens, cher Lebrun, à partir du début de la Révolution pratiquement, parce que c'était aussi un signe de la participation commune et que les titres étaient terminés. D'ailleurs, on peut dire d'un mot très rapidement, c'est que la nuit du 4 août était plus facile à accomplir que la suppression des titres de noblesse.
14 juin 90.
Exactement. Les nobles ont accepté plus facilement de perdre de l'argent que de perdre de la distinction symbolique.
De toute façon, l'idée d'égalité, elle est très difficilement acceptée. Il y a des blancs pendant l'époque révolutionnaire. Il y a une première panne, vous l'expliquez, dans la société des égaux, dans laquelle vous consacrez 300 pages aux pathologies, après avoir consacré 100 pages à la naissance de l'idée. Vous expliquez que la première panne, c'est le capitalisme industriel et la première mondialisation. Et ne parlons pas de la grande panne d'aujourd'hui, puisque 24% des richesses du pays appartiennent aux 1% les plus riches, 62% des richesses du pays au quart le plus riche. Alors c'est l'objectif de refaire société à Grenoble.
Exactement.
D'où jusqu'au 13 novembre. Demain, Alexandra Ben Saïd sera d'ailleurs pour France Inter ici à 9h avec notamment Dominique Méda et Patrick Vivray. La société des égaux, c'est au seuil. Allez, je cite tout le monde à égalité, le citoyen Klaus, le citoyen Manel, le citoyen Étienne, le citoyen Caumont. La préparation à Paris, Méril, Moneghetti, Frédéric Martin et Jacques Olivard. Et puis on va donner quand même un statut privilégié, parce qu'il a le rôle du patriarche, comme dirait Rousseau, au réalisateur Jacques Cigale.